Bonjour monsieur, l'émission Bi en tête. Quelques mots sur la formation professionnelle en Suisse. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
L'argent, il faut donner l'argent.
On peut pas, on doit acheter des avions.
Mais alors, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut.
Bi en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bi en tête, bonjour à tous. C'est l'heure du café, Philippe. Il est bon ce café.
Salut déjà. Bonjour à tous, effectivement. Pourquoi pas un petit café à 9h30? Eh bien, on va vous parler d'un café spécial qui s'appelle Kawa. Kawa, je le rappelle, en arabe, ça veut dire café, hein, sauf erreur. C'est Étienne Champion, qui est l'administrateur de JobTrek et qui nous accueille en compagnie de Daniel Cazès, qui lui est le fondateur. Alors, salut à tous les deux.
Salut Philippe, salut déjà.
Bonjour.
Alors, ce Kawa, de quoi s'agit-il?
Alors, dans la vision de JobTrek, de créer une économie ou de participer à une économie saine, pérenne et solidaire, on va dire, qui offre une place à chacun. On crée des entreprises, mais on collabore aussi avec des jeunes entrepreneurs et des entreprises qui sont en création. Et ben là, on collabore avec Kawa. C'est une entreprise qui crée du café. Ils vont chercher le café, ils le ramènent en Suisse et ils le torréfient eux-mêmes avant de l'envoyer dans les entreprises. Leur but, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'argent revienne aux producteurs locaux. En parallèle à ça, ils veulent absolument continuer à avoir une vision solidaire, aussi pour la Suisse. Et c'est là qu'on rentre dans la danse, où on collabore avec eux pour créer des places de stage, voire plus tard, des places d'apprentissage.
Vous pouvez envoyer donc des gens chercher du café en Colombie. C'est une espèce de remake de la pub. « Oh, la gringo, il est bon ton café !» Tu te souviens de ça, Philippe ?
Oui, tout à fait. C'était mon héros à l'époque. Mais c'est intéressant ce que vient de dire Daniel, parce qu'effectivement, il y a énormément d'associations qui sont dans le marché équitable. Hein. Fair Trade, on en a parlé. Mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi cette connexion avec du marché équitable en Suisse, parce qu'on a tendance à parler beaucoup du marché équitable, c'est-à-dire défendre des producteurs très loin de chez nous, mais on oublie parfois un peu quand même de défendre nos propres producteurs ou autres énergies professionnelles qui peuvent...
Cela étant, peut-être que les gens qu'on va aider ailleurs ne votent pas à l'extrême droite non plus.
Non, mais ça,
je pense... Je me permets, Philippe, ça fait plaisir.
Oui, non, mais je pense que c'est pas ça le problème, à mon avis. Le problème, c'est que il y a de la galère aussi en Suisse et on a la tendance à l'oublier parce que on a cette humilité calviniste, je sais pas, en Suisse, et de se dire, oh, on est un pays riche. Mais non, mais il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui ont besoin, donc d'où l'utilité.
Ouais, plaisanter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens qui sont censés défendre des corps de métier qui ne les défendent pas bien, et que des gens votent pour certains partis qui prétendent défendre, par exemple, l'agriculture. On voit que ce n'est pas le cas, Philippe.
Oui, mais là, tu
je
parles...
Je pas de politique, non, c'est simplement un constat.
Oui. Mais là, tu parles de parti...
Tu sais que j'ai raison.
Du parti du centre, non?
Je ne parle de personne. Je parle de problème, Philippe.
Ok, allez, on continue.
On me traite d'islamo-gauchiste.
Exactement. Donc, on continue en attendant avec ces produits. Donc là, on voit qu'il y a du... café, hein, Kawa. Vous avez aussi de l'huile. Alors ça me parle énormément parce que je vois que c'est de l'huile de colza. Colza avec un petit drapeau suisse. Donc j'imagine que c'est de l'huile de colza qui est fabriquée ici. Il faut savoir qu'il y a eu quelques années en arrière, voire même quelques mois en arrière, toute une polémique autour de cette production de colza. On a incité des producteurs à produire du colza. Et puis maintenant, on se rend compte qu'avec la libération du marché, la libéralisation, pardon, ben, nos petits producteurs, ils se retrouvent un peu la tête sous l'eau. Donc c'est important de soutenir ces producteurs. Donc huile de colza, de quoi s'agit-il, Daniel?
Alors là, c'est un agriculteur qui aime beaucoup JobTrek, qui croit en ce qu'on fait. Et il s'est lancé dans la production de l'huile de colza pressée à froid. Et l'année passée, il a pressé de l'huile. Et à chaque fois qu'on achète une bouteille, il y a une thune qui vient pour JobTrek.
Il croit à l'entreprise sociale Daniel Cazès et Étienne Champion.
J'évoquais tout à l'heure l'aspect un peu politique de manière caricaturale, mais dans votre démarche, dans votre entreprise, il y a de ça, finalement, d'avoir une économie qui respecte l'individu, mais qui reste malgré tout une économie libérale, c'est le sociolibéralisme.
Oui, effectivement, ça y ressemble. Nous, notre vision, c'est de créer des entreprises et de continuer à le faire, mais des entreprises qui, en fin de compte, mettent leur intérêt pour l'être humain. Par contre, il faut absolument que ce soit des entreprises qui tournent et qui font de l'argent, pas des entreprises subventionnées.
Mais vous, en tant qu'entrepreneur, directeur, vous avez plusieurs casquettes. Vous le trouvez comment, ce système actuel, l'économie telle que vous l'avez pratiquée auparavant? Quels sont ces points positifs, ces points négatifs? Qu'est-ce que vous avez trouvé discutable peut-être ou merveilleux, que sais-je?
Je crois surtout que le problème qu'on a aujourd'hui dans l'économie, c'est quand on parle des postulats, disons, économiques de base comme étant simplement la vérité vraie en matière financière et en matière, disons, de gouvernance d'entreprise. Donc, j'entends par là, par exemple, la maximisation de bénéfices, disons, un peu sauvage, en quelque sorte. Alors, oui, c'est clair qu'on doit faire attention à gérer une entreprise de façon efficace. On doit, dans l'économie, je parle pas maintenant ici de nous, de JobTrek, mais je parle vraiment de l'économie en général. Oui, il faut être efficace. Oui, il faut rechercher à faire des profits. Oui, il y a de la concurrence, etc. Mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue qu'on a une responsabilité éthique et morale. Ce que moi, j'ai vu aussi dans mon parcours professionnel jusqu'à présent, c'est un certain nombre d'entreprises qui en viennent à complètement oublier l'aspect éthique et moral. Et je ne parle pas juste de la morale dans les affaires. Je parle vraiment de l'engagement moral vis-à-vis de l'être humain qui est finalement, qui devrait être vraiment au centre un peu de nos préoccupations aussi.
Mais il n'y a pas de loi pour ça.
Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, mais il me semble qu'il y a quand même dans l'histoire économique, il y a quand même encore suffisamment de concepts desquels on devrait s'inspirer. Je veux dire, je pense déjà simplement aux précurseurs de l'économie. Je pense à un Adam Smith, par exemple, qui disait qu'il faut rémunérer équitablement chaque facteur de production de richesse. Donc, ça veut dire la terre, le travail et le capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les êtres humains, il faut les payer correctement. La terre, c'est donc les biens d'investissement. Et puis, le capital, c'est un dividende. Dès le moment où tu vas amputer un de ces facteurs-là au profit des deux autres, ou bien en privilégier un seul, ça va évidemment créer des distorsions dans le circuit économique. L'espèce de sociolibéralisme dont tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est vraiment une image appropriée de dire, OK, quand une entreprise fait du capital, oui, elle doit, un, payer un dividende, deux, elle doit payer ses collaborateurs comme il faut et leur verser une prime, et puis trois, elle doit faire des réserves pour pouvoir réinvestir. Il y a encore une quinzaine d'années, on entendait un certain Martin Ebner, qu'on a maintenant bientôt oublié, heureusement, qui disait « Ah, alors, les bénéfices, c'est pour les dividendes, pour les actionnaires. » Oui, ben non, mais il n'y a pas que ça. C'est juste, les actionnaires doivent être rémunérés, mais pas que. Donc, ça ne doit pas être au détriment des autres facteurs de production de richesse qui sont précisément les travailleurs et puis les investissements et les équipements d'une entreprise.
Bonjour monsieur, l'émission Bi en tête consacrée à la formation. Que pensez-vous de la formation en Suisse?
La formation dans quel domaine?
La formation professionnelle.
Écoutez, je ne suis pas assez au courant pour vous donner des bons renseignements.
Non, vous avez fait un apprentissage?
Non, j'ai fait des études de médecine.
Ah oui, ouais, c'est long.
C'est long,
mais
oui.
Ça paye.
Ben écoutez, pas jusqu'à très tardivement, parce que moi j'ai dû travailler toutes mes vacances. Chaque année pour payer mes études. Bon, c'était pas très cher en Suisse, c'était 400 et quelques francs à l'époque, je crois, par semestre, alors que à l'étranger c'était beaucoup plus cher. Donc j'ai dû payer pour ma survie. À l'époque, j'étais à peine 4000 francs par mois, 120 heures par semaine.
Et puis, patients un petit peu casse-bonbon peut-être.
Oh ben c'est sûr que ça, c'est des gens qui souffrent, donc ils peuvent pas vous remonter le moral. C'est à vous de leur monter le moral à eux.
Quelle est votre spécialisation?
Moi, je m'occupe des yeux, mais j'ai fait aussi du tiers-monde, un peu d'opérations de cataracte à l'étranger, en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient. C'est plus une vocation qu'autre chose. On ne fait pas vraiment pour l'argent. Parce que si vous faites pour l'argent, vous ne tenez pas le coup. Les gens ne se rendent pas compte de l'effort que fournissent les médecins, un emploi de la semaine. Et quand vous finissez à 6 heures, effectivement, on finissait à 7-8 heures le soir.
Mais vous pouvez vous auto-prescrire des somnifères?
En principe, on dort tout seul, sans problème, parce qu'on est assez crevé pour s'écrouler sur le lit le soir.
Merci. Merci, docteur.
Ok, au revoir.
Et si on vient un peu terre à terre avec des discours qui peuvent paraître caricaturaux, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que des grands chefs d'entreprise sont autant rémunérés, on ne comprenne pas pourquoi leur salaire ne bouge pas, on dit qu'on est en Suisse, on parle de la qualité de vie en Suisse, on voit que la vie coûte très cher, que les loyers sont très, très élevés, qu'il y a aussi des problèmes avec les primes maladies, etc. Comment ça se fait qu'on nous dit tout le temps qu'on vit dans le pays le plus riche du monde et quelque part il y a beaucoup de gens qui rament?
Le pourquoi, je ne peux pas vraiment te dire, mais disons, quelque part, on voit effectivement, le constat, il est là. Le constat, je crois qu'il n'y a personne qui nous ment, parce que la question avec les vraies statistiques, le statisticien, il va te dire, si tu lui demandes combien font 2 plus 2, la réponse du mathématicien, il va te dire, ça fait 4, mais le statisticien, il va te demander combien tu veux que ça fasse. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait dire aux statistiques un peu ce qu'on veut. Ce qu'il est clair, par contre, c'est que d'un point de vue économique, il est évident aujourd'hui que le revenu disponible des ménages est de plus en plus bas. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de pression, par le loyer, impôts, caisse maladie, etc.
Mais on va vers le beau. C'est quoi l'économie de demain? C'est l'économie avec de la morale et de l'éthique.
Oui, c'est vraiment le credo que j'espère qu'on puisse adopter de façon générale. Mais voilà, je pense que c'est aussi peut-être une belle utopie parce qu'on n'est quelque part pas prêt à lâcher un petit peu du lest à ce niveau-là.
Vous êtes un utopiste parfois ?
Non.
Dans les milieux économiques, qu'est-ce qu'on pose à votre aventure ?
Ça, je sais pas, mais quand on en parle, curieusement, beaucoup de gens nous disent « Ah, mais c'est quand même une bonne idée ». On reçoit quand même aussi à JobTrek hein, des soutiens de la part de mécènes privés. Alors ça peut être des fondations, certes, mais il y a aussi des entreprises qui nous soutiennent financièrement. Daniel tout à l'heure a parlé de Bobst qui nous paye une place en quelque sorte à l'année. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de magnifique. Il y a des gens, des entrepreneurs qui croient quand même à ces concepts-là.
Donc la mondialisation, elle va dans le mur alors ?
Bah, c'est pas tellement la mondialisation le problème, je crois que c'est plus la manière d'approcher.
À la finalité, c'est quand même un peu ça. J'ai vu l'autre soir au JT Pierre Rabhi qui parlait de cette. Enfin, c'était assez impressionnant, ça m'a beaucoup impressionné, tout ce qu'il disait par rapport à cette consommation qui était complètement effrénée, qui en même temps est en train de s'auto-asphyxier. On est un peu là-dedans, alors.
Oui, ouais, mais je pense qu'on est aussi, on est effectivement un peu là-dedans, effectivement, probablement.
Donc la solution, c'est quoi ? C'est de l'huile de colza réalisée chez son voisin et consommée locale, alors ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution.
Je ne
crois pas qu'on puisse prêcher une solution. Il y aura un ensemble de solutions, c'est sûr. Mais on peut voir des tendances aujourd'hui qui sont, par exemple, celles-ci, qui sont, par exemple, celles-ci aussi avec une petite bière qui est produite par une toute petite brasserie locale à Lignerolles. Voilà. La Versée, une jolie bière artisanale. Ils sont en train de démarrer la vente, donc ça a été un long travail pour eux. Voilà, un des associés ici est un collègue à nous. Il y aura de plus en plus la place pour des toutes petites structures qui agissent localement sur des produits de niche avec vraiment un matériau qui est radicalement différent.
Je me réjouis de réécouter cette émission dans une dizaine d'années, histoire de voir si c'est vraiment ce qui s'est passé.
Quelle que soit la distance, je pense à toi, je t'évoque en silence, je me tire, je laisserai tout tomber, tout bien peser, tout bien considérer, tout bien considérer. Je n'ai besoin ni envie d'autre chose. Moi qui croyais qu'une vie ne suffit pas pour tout goûter, tu dois bien rire de moi. Je surgirai là dans ton dos, je renierai tout ce que j'ai trouvé beau, mais qui était vide, mais qui était faux. Mais qui était faux? Quand tout s'éclaire, quand tout devient facile dans la forêt, un arbre s'illumine et tout le reste ne pourra plus compter. On se sent bien, on se sent plus léger. On se sent plus léger. Je n'ai besoin ni envie d'autre chose. Moi qui croyais qu'une vie ne suffit pas pour tout goûter, tu dois bien rire de moi. Je surgis là dans ton dos, je relis
monsieur, pour l'émission Biotech, c'est très rapide. Vous avez fait un apprentissage ?
Non, pas d'apprentissage. Non.
Non.
Non, non.
Non. Comment est-ce que vous êtes rentré dans votre métier ?
J'ai fait un apprentissage d'électricien en fait, mais là c'est ascenseur, donc il n'y a pas d'apprentissage.
On ne peut pas devenir ascensoriste ?
Non, pas encore. Non.
Ascensionniste ?
Ascenseuriste, ouais.
Ascensionniste, il y a Jésus qui arrive.
Merci bien.
Encore une question par rapport à cette huile de colza. On parle d'économie, on parle de micro-entreprise. Une huile de colza comme ça, par rapport... moi, je l'ai goûtée hein, pendant que tu parlais, Étienne. Je me suis permis de la tester. Elle est juste extraordinaire. On a l'impression de croquer dans du colza. Elle est plus chère ou elle est moins chère? On en est où au niveau des prix? Parce que les gens nous disent, ouais, c'est gentil, vous nous dites de consommer local, mais ça coûte cher.
Bah celle-là, elle est vendue à combien 18 francs 18 francs la bouteille, voilà, effectivement. Donc c'est peut-être un peu plus cher, effectivement, que l'huile lambda que tu vas acheter à la Migros, mais ça vaut son pesant de cacahuète, puisque tu l'as goûté, tu disais toi-même, si elle est meilleure que les autres, c'est qu'il y a effectivement aussi un avantage sur ça, hein, qui vaut son prix.
Elle est aussi bonne qu'une bonne huile d'arachide tchèque.
N'importe quoi. Bon, en vrai.
Tu peux te dire oui.
Ah ben non.
Ah ben non, mais t'as déjà goûté de l'arachide tchèque?
Non, parce qu'ils n'ont pas de cacahuète en Tchéquie, voilà.
Bille en tête. On va passer à côté. J'aimerais juste peut-être savoir, en tant que membre fondateur, est-ce qu'on a aussi une vision d'avenir en se disant de préparer les jeunes au métier de demain, l'automatisation, au métier du futur?
Oui, il y a des métiers qui vont disparaître et puis il y a des métiers qu'on ne connaît pas encore. Donc il y a des formations qui n'existent pas pour les métiers de demain.
Et des métiers qui vont réapparaître, non? Maréchal Ferrand, ramoneur, tous ces métiers qu'on a vraiment jetés au panier, ces métiers-là, il y a de la demande. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de chômeurs dans ces champs d'activité.
Bien sûr, il y a par exemple le boucher aussi. La boucherie, ils recherchent toujours... des jeunes qu'il faudrait qu'ils fassent boucher.
C'est
mais
bien parce qu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de boucheries qui ferment.
Parce que justement, il n'y a pas de repreneurs souvent. Mmh. Et donc, en fin de compte, les jeunes, ce serait bien d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent ouvrir leur esprit et puis partir sur la boucherie ou d'autres métiers comme ça où il y a du besoin. Mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux choisir un métier, ça c'est aux jeunes à qui je m'adresse, peut-être choisir un métier où il y a du travail plutôt qu'un métier où on donne l'impression d'être heureux et ça n'est pas le cas et où il y a beaucoup de chômage.
Le CFC c'est un premier pas dans la vie et puis actuellement on ne fait plus un métier toute sa vie, c'est juste un départ et c'est souvent... Le CFC est un vraiment très bon départ.
Bonjour, j'ose vous poser une question, est-ce que vous faites un apprentissage?
Non.
Des études?
Ouais, en quelque sorte, ouais.
Ça veut dire ?
Mais moi, je veux pas parler à la télé, monsieur.
C'est pas la télé ?
RTS. C'est la radio.
Ah ouais ?
Je parle pas.
Mais enfin, sujet sur l'apprentissage. Mais pourquoi est-ce que les jeunes veulent pas parler aux médias ?
Parce que vous dites que des bêtises, je suis désolé. Pas vous, personnellement.
Ah si, moi, oui.
Alors, vous relayez des bêtises.
Vous pensez que tout ce que vous voyez sur Internet, c'est plus vrai ?
La plupart, oui. Je dis pas que tout ce que dit la télé est faux.
Vous allez vous faire entuber, la génération, là. Hein ?
Non.
Force de croire aux fake news.
Non, c'est plutôt votre génération qui se font tuer, je suis désolé, par la télé. Moi, quand je regarde le journal, je suis dégoûté, franchement. Après, chacun a son avis.
Ouais.
Mais moi, non, j'ai pas envie.
Si j'arrive à vous prouver que vous avez tort...
Alors, bonne chance.
Alors, Philippe, je pense qu'on ne va pas les déranger, les jeunes gens qui sont en cours, même s'ils ont très envie de parler au micro.
Non, justement, parlons-en. Il y a quand même une très grande réserve. On peut quand même dire à nos auditeurs qu'on est rentré dans la salle de classe. Ils n'avaient pas forcément envie de s'exprimer au micro. Je peux les comprendre. Il y a une certaine réserve, une peur de l'inconnu. Quoi qu'il en soit, on a Monsieur David Brocard, qui lui est formateur. On va peut-être lui poser la question à lui. David Brocard.
Oui, bonjour.
Bonjour. On peut venir vous poser quelques questions?
Avec plaisir.
Devant les jeunes, ça ne gêne pas? Ça va? Ça ne vous dérange pas qu'on pose des questions?
On commence dans 5 minutes, ça vous va?
Voilà. Alors. Okay. David Brocard, bonjour, vous êtes formateur ici à JobTrek.
Oui.
Ça consiste en quoi d'être formateur? C'est-à-dire qu'on nous donne un cahier des charges en nous disant on a des jeunes qui cherchent du boulot et puis après on a carte feuille blanche et on peut écrire son histoire de cours, ou est-ce qu'on a un cadre très, très strict à suivre?
Alors moi j'ai un patron qui m'a donné beaucoup de liberté à ce niveau-là, donc je me suis retrouvé un jour, il m'a dit voilà, il y a 2 heures de cours à faire, je te laisse la voie libre. Puis j'ai construit mon cours un petit peu en fonction de ce que les jeunes avaient besoin. J'essaye d'avoir un maximum de relations avec eux, d'échanges avec eux, pour pouvoir répondre vraiment à leurs besoins, à leurs questions, sachant que moi, j'ai une expérience de 20 ans du monde professionnel qui me permet aussi de pouvoir confronter mes idées avec les leurs, sans casser, en fin de compte, leur envie d'être ou leur envie de devenir ou leur projet, etc.
Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui leur fait peur à ces jeunes?
Alors, je pense que le monde professionnel leur fait très peur parce que c'est le monde de leurs parents, parce qu'ils n'ont pas envie de ressembler à leurs parents. J'ai l'âge de leurs parents, donc je pense que c'est surtout cet élément-là qui leur fait peur. Je pense qu'il y a aussi des problèmes de communication entre cette génération...
Très connectée.
La leur, et la nôtre pas du tout. En tout cas, on ne sait pas utiliser aussi bien que ces éléments-là qu'eux. Mais voilà, le but, c'est pas non plus de casser leur... leur dynamique, c'est de pouvoir essayer de se dire comment on arrive à mélanger vos projets, vos idées, avec les attentes d'un futur patron où il y a le cadre, où il y a les règles qui correspondent à, voilà, aux règles que nous, on nous a imposées quand on était enfant.
Pour les jeunes qui en ont dans le steak, Job Trek, Étienne Champion et Daniel Cazès sont de la partie d'Ambientête.
Quand on part dans une aventure comme ça, parce que c'est d'une aventure dont il s'agit, est-ce que la première des choses à faire, c'est créer un dialogue, ou est-ce que c'est expliquer son cas en disant, voilà, moi j'ai ça comme expérience, voilà ce que je veux vous apporter? Comment on part dans un système d'enseignement comme ça, assez improvisé et assez libre?
C'est une confrontation d'idées, c'est aussi une passion de... Enfin, moi, j'aime cette génération-là, parce que j'aime...
On est quand même libre, excusez-moi, je vous coupe, mais ouais. Vous dites une confrontation d'idées, les jeunes sont ouverts à ça maintenant, ou est-ce qu'ils sont super sur la réserve? Parce qu'ils ont pris quand même quelques coups sur la tronche avant.
Oui. Alors, il faut gagner leur confiance, il y a un petit... Les premières minutes de cours, ils rigolent de temps en temps, disant, tiens, quel vocabulaire il utilise, alors... J'essaie de jouer un petit peu, de rentrer un petit peu dans leur monde à eux aussi. C'est ma manière de dire, ben voilà, je m'ouvre à vous. Mais j'ai besoin que vous vous ouvriez à moi, parce que ce que je vais vous raconter, si vous le prenez pas, mieux vaut que je le fasse pas, en fin de compte. Mais...
J'ai cru comprendre que vous aviez un parcours assez insolite. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir là. Oui. Lequel est-ce?
Alors, je suis assureur depuis plus de 20 ans, 22 ans, dans une compagnie d'assurance dans le Gros de Vaud. Donc, la majorité de mes clients sont les petites PME de cette région-là. Donc je connais beaucoup, enfin j'ai été confronté à beaucoup d'expériences de patrons qui ont été satisfaits ou déçus de leurs apprentis. J'ai essayé aussi de leur poser des questions sur leurs besoins, leurs attentes, etc. Et puis arrivé à la crise de la quarantaine, on va dire ça comme ça, j'ai fait une formation d'éducateur qui m'a permis en fin de compte d'essayer d'écouter ces gens-là. Et puis voilà, de confronter mon expérience de vie avec leurs besoins et leur expérience de vie à eux.
Il y a une crise à la quarantaine.
Il paraît même de la cinquantaine, on m'a dit dernièrement.
Ouais. C'est donc ça. Bonjour, l'émission Bille en tête, vous avez effectué un apprentissage?
Oui, exactement.
Ouais, c'était difficile?
Non.
Non, de trouver une place?
Il y a 13 ans, encore moins, quoi.
Ouais, et maintenant, oui?
Je pense que ça s'est un petit peu empiré, ouais.
Ouais. Pourquoi?
Ça coûte cher, un apprenti, hein, au niveau financier pour les employeurs. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui veulent faire ça.
Donc, toi, tu bosses avec des apprentis?
Non, pas moi.
Non.
Non.
Non. T'aimerais?
Pourquoi pas, si l'occasion se présente. J'ai une fibre un peu d'instruction, quoi.
Ah ouais.
Donc pourquoi pas?
Tu travailles dans quel domaine?
Je travaille dans une grande entreprise de transport public.
D'accord, les voilà. CFF.
Entre autres.
Et ça se passe bien?
Ça se passe très bien. Il y a plein de travail.
Tout qui est digitalisé, tout qui est numérisé, là.
Ah bah c'est la version 2018, quoi.
Ouais, mais peut-être au détriment de l'humain, non?
Il faut savoir jumeler les deux, quoi.
Ok. Voilà. La réponse de langue de bois.
Voilà. Bonne journée, merci.
On sait que maintenant les cours c'est assez, on garde contact avec les élèves, on les coach, justement par cette hyper connectivité qu'on a avec ces mails et ces pages internet, tout ça. Est-ce que vous gardez un contact avec eux et quel est ce contact? Ou est-ce qu'après le cours c'est terminé, on ferme la classe, on éteint la lumière, on passe à autre chose?
Alors je reste disponible pour eux, mais chacun a un coach spécifique, donc j'essaie dans la mesure du possible de pas marcher dans les plates-bandes de mes collègues, c'est-à-dire je reste disponible, mais souvent les renvoyant à leur coach directement pour que ça soit avec eux qu'ils puissent prendre certaines décisions et certaines positions. Maintenant certains d'entre eux sont en recherche de contact, ont besoin de pouvoir me revoir, alors je le fais théoriquement avec la validation de leur coach pour pas avoir un double langage entre ce que le coach leur raconte et puis la théorie qu'ils donnent moi.
Votre succès à vous, ce serait quoi?
Pour moi, un succès, ce serait d'entendre un jeune qui revient dans 4 ans puis qui me dit « Monsieur, j'ai mon CFC ».
Ou j'ai racheté la boîte.
Alors, c'est magnifique. Alors, mais alors voilà, et peut-être bien. Peut-être bien. Okay. Mais peut-être bien. Ouais. Ouais, peut-être bien. Non, c'est vrai que j'essaie de les encourager en leur disant que leur génération, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui viennent d'horizons différents. Aujourd'hui, nos patrons s'appellent Ferrini, Bollini, donc c'est les Italiens que nos parents n'aimaient pas. Aujourd'hui, certains d'entre eux vivent cette réalité-là. Je leur dis, ben voilà, vous serez les patrons de demain. Maintenant, à vous de vous donner les moyens. Et c'est possible qu'un jour, ces gens-là viendront me dire, je te fous dehors, c'est probable. Ça me ferait même à quelque part plaisir. C'est eux qui paieront mon AVS, donc il faut qu'ils le fassent.
Merci beaucoup, en tout cas.
Avec plaisir.
Bien, Philippe, on va repartir de la salle de classe qui avait très bien de la patience et l'idée de recommencer le coup.
Exactement. Merci.
Merci. On arrive gentiment au terme de cette émission ici à Job Trek à Yverdon. Peut-être quelque chose à rajouter?
Alors oui, des projets, il y en a plein. Actuellement, on a des bureaux à Yverdon, mais dès le 15 mai, on aura aussi des bureaux à Morges. Et puis, on a plusieurs entreprises qui sont en cours dans notre atelier création d'entreprise, entre autres un bar qui sera très étonnant et très à visiter, je vais dire ça comme ça, ainsi que un café coworking et tout ça dans le futur bâtiment du Kinder City au Y-Park.
Peut-être une boîte de climatisation aussi, non ?
Alors, je pense qu'on va acheter une clim ou alors déménager. Il fait vraiment chaud, c'est vrai.
Merci beaucoup, Étienne.
Merci à toi d'être venu, à vous deux.
Merci à Étienne, merci à Daniel, merci à toi, Dujard. On se retrouve demain. Demain, on va parler gastronomie. On va rencontrer un jeune, lui, au quartier de la Villette, à Yverdon, qui n'est pas forcément le quartier qui a la meilleure réputation. En tout cas, la plus glamour. C'est un quartier assez urbain. Et on va rencontrer un jeune qui s'est lancé dans le takeaway.
Restauration rapide.
Restauration rapide avec des aliments faits à la minute. Et je pense qu'on va avoir un grand moment de bonheur.
Ben, merci.
Jonathan, il s'appelle.
Je suis très content que tu me le dises.
Eh bien, écoute, c'est super. Allez, on vous embrasse. À demain. Ciao.
I got a bad habit, slowly sinking in. I got a bad habit now, slowly sinking in. Got me hearing voices, seeing through my skin.
Première, il est 10h.